Et tout commence en chanson ce matin.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Alors Isabelle, je vous promets, je ne vais pas abuser.
Dommage.
Voilà, cette introduction, c'était juste pour vous dire que ce matin, nous sommes dans le métro parisien avec Hiroko Ito, une accordéoniste japonaise. Alors jouer dans le métro, cette reine de l'accordéon se l'était promis en arrivant à Paris il y a 36 ans, c'était en 1987. Lorsque je saurai bien jouer, s'était-elle dit alors, j'irai proposer les plus beaux airs de cet instrument aux voyageurs. Son agenda chargé, ses formations diverses, ses tournées lui avaient longtemps fait différer ce projet. Et puis à l'automne dernier, Hiroko Ito se lance et passe le concours musique de la RATP, celui qui l'autorise à jouer dans les couloirs du métropolitain. Et oui, on ne s'installe pas ainsi dans les couloirs du métro, rappelle Evonne Nangue, auteur de ce passionnant reportage à découvrir dans le Pèlerin de cette semaine. Pour obtenir le fameux badge qui donne droit à s'installer dans l'une ou l'autre des 308 stations, il faut impérativement passer le concours. Parmi le millier d'artistes auditionnés chaque session, 300 seulement seront retenus. Ce concours est ouvert aux professionnels ou aux amateurs, aux titulaires du statut d'intermittent du spectacle ou pas. Mais tous rêvent d'obtenir le label musicien du métro. Seulement, une fois dans les couloirs, la concurrence est parfois féroce. Territoire gardé, confie Philippe, autre musicien accrédité, qui chasse Hiroko de sa station. Peu importe, elle trouvera un autre recoin. L'important pour elle, c'est d'apporter du réconfort par la musique aux Parisiens. Alors Isabelle, de la musique dans le métro, mais aussi de la musique dans les églises. L'église a besoin de renouer avec la joie, clament haut et fort les frères Pouzin, fondateurs du groupe Glorious. 20 ans après leur début, famille chrétienne est allée à leur rencontre. Il y a eu des hauts et des bas, mais chaque matin, quand je monte sur mon scooter pour rejoindre notre studio, j'accélère, car je brûle de faire de la musique pour Dieu, confie Thomas, l'un des deux frères, à notre confrère Benjamin Costa.
De la musique pour chanter la gloire de Dieu, des églises pour le célébrer.
Certes, mais pourra-t-on encore célébrer la gloire de Dieu dans toutes les églises? Question ouverte et levée de bouclier dans quelques-uns de nos médias chrétiens. Suite à la déclaration de Roselyne Bachelot, affirmant dans un livre récent, alors relatant ses 2 années à la tête du ministère de la Culture, qu'il sera impossible de sauver toutes les églises de village. Il en coûterait des dizaines de milliards d'euros pour les restaurer. Et suite également à ses déclarations sur le plateau de l'émission C'est à vous, où elle affirmait que ce patrimoine n'avait pas grand intérêt. Dans la Croix de ce mardi, Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val d'Oise, déclare, et je la cite, que pour les maires, l'église n'est pas un boulet. Pour Benoît de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible, tous les sondages le montrent, les Français sont extrêmement attachés au patrimoine religieux. Dans Famille chrétienne, Stéphane Bern répond à l'ancien ministre. Chaque église détruite est un aveu d'échec. Et pour Gauthier Mornaz, directeur du département art sacré de la Conférence des évêques de France, alors c'est une tribune parue sur le site de La Vie, une ancienne ministre ne devrait pas dire cela.
On est bien d'accord. Et à qui appartient Notre-Dame de Paris?
Ni aux catholiques, ni aux français. Ses riches vitraux, ses sculptures et chapelles ciselées, comme dit Bible de Pierre, ses voûtes profondes aspirant vers le ciel dans un même élan, les âmes et les prières, tout était orienté et offert à Dieu, écrit Antoine Pasquier dans son édito de Famille chrétienne, magazine qui consacre un très beau reportage au chantier de Notre-Dame. Derrière les palissades qui l'entourent, la cathédrale de Paris est une véritable ruche où s'activent près de 300 compagnons et artisans d'art. Sans relâche, ils œuvrent à sa restauration. Sous les voûtes et sur les hauteurs de l'édifice, nos confrères de Famille chrétienne sont allés à leur rencontre. Ce qui est extrêmement frappant, c'est l'enthousiasme et la fierté de tous. Si vous discutez avec les compagnons et les artisans d'art, vous verrez combien ils sont fiers de travailler sur ce chantier. Je suis frappée par l'amour du travail bien fait qui anime chacun d'eux, leur confie le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame et pour qui la cathédrale de Paris est le centre spirituel de la France.
Rien de moins.
Voilà, oui. Entre 1988 et 2007, le centre spirituel pour au moins 10 jeunes était un internat de la communauté des Béatitudes. Internat dans lequel au moins 10 de ces jeunes, victimes présumées, ont subi des agressions sexuelles. Dans la Croix Hebdo de ce week-end, vous lirez selon les mots d'Anne Ponce, rédactrice en chef, un récit glaçant. Comment un jeune homme peut-il être amené à taire les abus sexuels qu'il aurait subis, et ce jusqu'à plus tard innocenter un prêtre présumé auteur de ces mêmes faits? avec une immense humanité et avec un professionnalisme à toute épreuve. Michael Kor, grand reporter à la Croix l'Hebdo, a enquêté pendant plusieurs semaines sur les mécanismes insidieux de l'emprise. Sous-emprise, un récit glaçant.
Et enfin, on parle de deux âmes.
Deux belles âmes, Isabelle, et ça fait du bien. Deux belles âmes réunies en couverture du magazine La Vie, celle de Thérèse de Lisieux et de Charles Péguy, née à quelques jours d'écart il y a 150 ans, en 1873. Alors, hormis cette proximité de date de naissance, eh bien, qu'y a-t-il de commun entre la carmélite morte à 24 ans dans son couvent et puis l'écrivain, journaliste et polémiste mort dans les premières semaines de la Grande Guerre? Vous le découvrirez en vous plongeant dans le remarquable dossier de notre confrère Pierre Jova. Alors, est-ce une question de rayonnement respectif? Leur origine modeste, leur même passion pour Jeanne d'Arc, la fidélité à leur enfance, leur solidarité avec les damnés, le doute, la nuit de la foi pour Thérèse, les errements d'un chrétien pas très catholique pour Charles, peut-être. En tous les cas, autant de questions et bien d'autres auxquelles vous trouverez probablement, et même j'en suis sûre, des éléments de réponse au travers de ce très fouillé dossier de Pierre Jova. Reste cependant un mystère. Ont-ils seulement de leur vivant eu vent l'un de l'autre? Pierre Jova aime à les imaginer se tombant dans les bras à l'arrivée du cadet au ciel, reconnaissant par-delà la mort leur passion commune, comme deux dimensions essentielles de l'œuvre à laquelle tout chrétien est appelé dans ce monde, le spirituel et le temporel. Thérèse et Charles, un invisible compagnonnage.
Merci beaucoup Marie-Pierre Pavlak pour cette magnifique revue de presse à retrouver sur notre site www.radioprésence.com.